Bonjour à tous et un nouveau coup de main pour l'emploi qui s'inscrit dans une grande campagne de promotion des métiers engagée par le groupe Saint-Gobain depuis maintenant plusieurs mois. Chaque mois est consacré donc à une famille de métiers. Le mois de janvier est consacré donc aux métiers de l'informatique et du digital. Et nous accueillons pour les présenter Claire Toumazet, RH en charge précisément de ces métiers. Bonjour Claire Toumazet.
Oui, bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu à grands traits en fait les différents recrutements sur cette famille de métiers?
Oui, bien sûr. Donc, on est très actif au niveau du recrutement sur ces métiers du digital et de l'informatique. Hein. Mm-hmm. On va recruter sur tous les types de métiers, hein, sur des métiers un peu plus techniques, sur l'utilisation de SAP ou de différents ERP. Mm-hmm. On va avoir beaucoup de postes au niveau du digital, de chef de projet digital, sur les métiers du web, du e-commerce. On a également pas mal de postes, tout ce qui va être sur la data, vraiment l'utilisation de la data, des data scientists. Et puis, bien sûr, donc on va avoir des postes à la fois de chef de projet fonctionnel et technique. Dans ces domaines-là du digital, de l'informatique. Après, on va aussi avoir des postes plus orientés sur les métiers de Saint-Gobain, donc l'utilisation du digital et de l'informatique sur des applications pour l'industrie, pour la supply chain, pour tout type de solutions ou d'applications dont aurait besoin le groupe Saint-Gobain.
Alors, puisque vous parlez de ces différentes filiales, parce qu'effectivement, le groupe Saint-Gobain, c'est une myriade de filiales, ces recrutements en lien avec l'informatique et le digital, est-ce qu'ils se localisent géographiquement sur l'ensemble du territoire ou est-ce qu'il y a des noyaux bien spécifiques?
Alors, il y a des noyaux bien spécifiques et puis des personnes aussi un peu sur l'ensemble du territoire. Hein. On va avoir une grosse activité, bien sûr, en région parisienne, hein, où on va avoir tout l'activité centrale, on va dire, du digital et l'IT. On a également un centre un peu plus dans le sud-est de la France. Mmh. On travaille beaucoup aussi avec des centres qu'on a en Inde. Et puis, dans tous les métiers, les business units du groupe, on a des personnes qui travaillent dans la partie digital IT, qui peuvent être basées du coup un peu partout dans le monde et dans les différentes activités du groupe.
Alors, autre question, parce que je sais qu'elle peut être intéressante et importante, surtout pour un certain nombre de nos jeunes auditeurs. Est-ce que vous accueillez, dans le cadre de ces recrutements informatiques digitales, des apprentis, en tout cas sur des contrats d'alternance?
Oui, bien sûr. Le groupe, de manière générale, hein, est très actif en termes de recrutement d'alternants, puisqu'on avait plus de 2000 alternants recrutés en 2021 en France, et on a un objectif plus élevé encore en 2022. Donc nous, oui, bien sûr, on va également recruter des alternants dans un contrat d'apprentissage ou professionnalisation, donc sur tous les métiers que j'ai cités, hein, du digital, de la data, de l'informatique. Je n'ai également pas cité, mais on a une forte activité, bien sûr, en cybersécurité aussi. Donc oui, on recrute des étudiants en alternance et avec bien sûr un objectif de pouvoir les transformer en CDI dans le groupe.
Vous parliez de l'Inde il y a quelques instants, vous êtes un groupe absolument gigantesque qui recrute également à l'international. Question toute bête, est-ce que sur ce métier-là, sur ces métiers-là, un candidat peut envisager un temps d'avoir un parcours sur le territoire purement français et puis ensuite de s'expatrier, on va dire, vers les États-Unis, l'Angleterre ou je ne sais quel autre pays?
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est même de manière générale dans le groupe. Hein. Donc, de manière générale, dans le groupe Saint-Gobain, on a énormément de mobilité interne, hein, que ce soit dans les différents métiers du groupe, mais également dans les différents pays. Donc ça, on va vraiment suivre les choix personnels des personnes et essayer de trouver des opportunités dans les localisations qui les intéresseraient. Après, donc en Inde, on a un grand centre d'informatique on réalise parfois des petits échanges pour que les personnes puissent venir un petit peu en France pour connaître les différents interlocuteurs et puis revenir en Inde. Mais on a ce genre de choses puisqu'on a aussi des centres applicatifs informatiques dans différents pays, hein, que ce soit qui couvrent les différentes zones géographiques, mais donc aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Amérique latine. Voilà, on a aussi des centres de compétences applicatifs informatiques et on peut avoir des mobilités des personnes effectivement de Paris vers ces centres. C'est des choses tout à fait possibles.
J'invite donc nos auditeurs, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, à se rendre sur le site carrière, sur le site recrutement de Saint-Gobain qui est extrêmement bien fait. Non pas donc pour réserver des billets de voyage, mais en tout cas pour y consulter les très 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 nombreux recrutements et ce mois-ci avec un focus particulier sur les métiers de l'informatique et du digital. Claire Toumazé, mille merci de ce témoignage et je vous dis à très bientôt.
Merci, merci à vous. Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
6h23, nous sommes le jeudi 13 janvier, oui le 13e jour de l'année. Attention pour les superstitieux, que s'est-il passé un 13 janvier? Je vous propose de faire un retour en 2000, ça fait déjà 22 ans, avec une première réalisée à Lyon par les équipes du professeur Dubernard. La greffe des deux mains pour un homme de 33 ans amputé suite à un accident. 18 chirurgiens se sont succédés pour la réussite de cette opération. Réécoutez à la télévision les premières réactions du professeur Jean-Michel Dubernard.
C'est une intervention très minutieuse sur le plan de la chirurgie, mais l'acte chirurgical n'est qu'un des aspects de ce type, de l'ensemble du procédé. Bien entendu, l'immunosuppression et la prévention du rejet sont l'essentiel de ce type de transplantation.
Il y avait beaucoup d'interrogations, il y a un traitement anti-rejet très lourd, des risques de maladies graves. Eh bien, sachez qu'en 2020, Le Point a fait un reportage sur le double greffé qui s'appelle Denis Châtelier et aux dernières nouvelles, il va bien sans avoir 100% de mobilité. Voilà, c'était un 13 janvier 2000. Le 13 janvier, on fête des anniversaires. 56 ans, l'acteur américain Patrick Dempsey, docteur Shepherd dans la série Grey's Anatomy. 13e jour de l'année qui porte pas souvent un destin particulier. Cabu, victime de l'attentat à Charlie Hebdo, célèbre dessinateur, était né un 13 janvier, tout comme Marco Pantani, vainqueur du Tour de France et mort d'une overdose en 2004 à l'âge de 34 ans. Il était lui aussi né un 13 janvier, décédé en 2015, la star des années 60, Richard Anthony.
Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour.
Je ne sais pas si vous pouvez vous en aller, hein. Vous restez là. De toute façon, si vous prenez la voiture, vous mettez l'autoradio, on vous accompagne. Bonne journée à tous. Le 13, hein, j'en parlais, ça porte bonheur. On va voir ça, il y a les pronos du tiercé qui arrivent dans un instant.
5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.
Ils sont là, les petits chevaux. Attention, le 13e jour de l'année, avec les pronostics de Jean-Paul Delperrier, ça ne peut que gagner. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Oui, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas vendredi, hein, pour les superstitieux.
Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Le prix de la Côte d'Azur aujourd'hui sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer nous est proposé pour les paris à la carte sur les 2900 mètres avec 16 concurrents dans cette épreuve européenne. Et c'est le numéro 9 Empire que j'ai choisi en favori. Il est très bien engagé au premier poteau. Son compagnon d'entraînement, le 5 Eric The Hill, viendra derrière avec le 2 Vikings AI, 15 Écureuil Génie Loup, 3 Esprit Mystique, 8 Dolina des Plaines, 7 El Presidente et 16 Alcoy. 9, 5, 2, 15, 3, 8, 7 et 16. Pour ma sélection du jour, on remonte un petit peu. Lyon-la-Soie, Réunion 4, course 2, avec le 5 qui s'appelle tout simplement Sans attendre.
On n'attend pas, on n'attend pas. Il est 6h30, on s'intéresse à la météo. Merci Jean-Paul Delperrier et avec vos pronostics sur le site Sud Radio. Vous l'avez entendu, le petit jingle, la météo, on se dépêche. Il est l'homme qui est à la tête du lobby de tous les vendeurs de radiateurs aujourd'hui. C'est Rémi André.
Et on en a bien besoin de ces radiateurs. Et puis si vous sortez, n'oubliez pas de bien vous couvrir, notamment depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est, mais également sur la Provence, puisque même du côté donc du Rhône, là les températures sont plutôt fraîches, moins 6 degrés actuellement à Carpentras, donc c'est tout de même bien frais. Alors on était tout à l'heure à moins 7, maintenant c'est moins 8 degrés à Rodez, moins 5 degrés toujours à Bagnères-de-Luchon, nous sommes maintenant passés à moins 6 degrés à Bergerac, dans le nord-est également des températures de moins 6 à moins 8 degrés. Alors on garde du positif sous les nuages sur la Bretagne, une partie de la Normandie, et quelques températures positives, on peut les trouver du côté de Nice avec 4 degrés sur la Corse évidemment. Alors dans la journée, les brouillards vont se dissiper, attention, ces brouillards sont denses et parfois assez lents à se dissiper, notamment en bordure de Garonne ou dans le sud-ouest, mais ensuite eh bien, c'est le soleil qui va dominer et avec lui les températures vont légèrement remonter, comprises entre 5 et 11 degrés en général, on peut espérer encore 14 degrés à Nice.
Merci cher Rémi André, on fonce, on est un petit peu en retard, 6h31. C'est le moment de faire le point sur l'actualité.
Sud Radio. Parlons vrai.
On retrouve, pour tout savoir, Clémence Lobary. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. 75% des enseignants en grève aujourd'hui. C'est une journée très compliquée qui s'annonce dans l'éducation nationale. Le syndicat SNUPP-FSU, qui a lancé l'appel à la mobilisation, dénonce notamment la gestion du Covid par le gouvernement. Une gestion également critiquée par les parents d'élèves, vous l'entendrez. En attendant, le Sénat lui valide le pass vaccinal, un texte adopté cette nuit par les sénateurs qui ont tout de même apporté quelques changements. Et puis, connaissez-vous l'application Élise? Si vous faites partie des indécis pour la prochaine élection présidentielle, elle est faite pour vous. On vous explique tout ça à la fin de cette édition. Journée noire dans l'éducation nationale. Expression du ras-le-bol quasi général concernant le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Le syndicat SNUPP-FSU, qui a lancé l'appel à la grève nationale, a d'ores et déjà prévu que 75% des enseignants du premier degré seraient grévistes. La moitié des écoles devraient être fermées. Un mouvement de grève auquel se joint la FCPE, qui appelle les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école aujourd'hui. Mais alors justement, du côté des parents d'élèves, quel est le mot d'ordre de cette journée de mobilisation? Écoutez les explications de Rodrigo Arenas, c'est le porte-parole de la FCPE.
Écoutez, le mot d'ordre de la FCPE est le même que depuis le début du confinement, c'est-à-dire que nous demandons à ce que les pouvoirs publics, le gouvernement et le chef de l'État mettent sur la table les moyens nécessaires pour que l'école puisse fonctionner. Nous avons vu avec curiosité intéressée que le chef de l'État avait trouvé 15 milliards d'euros pour le ministère de l'Intérieur, notamment pour la police, donc de sécuriser la France, très bien. Eh bien, écoutez, nous demandons l'équivalent pour l'école, pour sécuriser les écoles et que les enfants aillent à l'école pour apprendre et non pas être gardés parce que l'école n'est pas une garderie.
Et dans les collèges et lycées, le mouvement devrait également être très suivi. Cependant, les enseignants n'ont pas l'obligation de se déclarer grévistes 48 heures avant. Il est donc plus difficile d'estimer la mobilisation. Et le milieu universitaire, lui, attend la visite d'Emmanuel Macron dans un contexte tendu. Le chef de l'État doit participer à la clôture des congrès de la conférence des présidents d'université. Il compte saluer l'engagement des universités pendant la pandémie en matière de santé, de recherche, de continuité pédagogique et de solidarité avec les étudiants. Le projet de loi sur le pass vaccinal lui a été adopté par le Sénat. Le texte a été voté en première lecture par les sénateurs par 249 voix pour, 63 contre, mais avec quelques modifications à la clé, Émilie Gébleu.
Et oui, à commencer par la durée de validité du pass vaccinal. Il ne pourrait ainsi être mis en place que si le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 est supérieur à 10 000 patients au plan national. En dessous de ce seuil, il serait donc supprimé. Le pass vaccinal pourrait également être obligatoire uniquement pour les majeurs. Les sénateurs ont ainsi limité la possibilité d'imposer le dispositif aux personnes de plus de 18 ans. Les mineurs âgés de 12 à 17 ans resteraient donc soumis à l'obligation de présenter un simple pass sanitaire. Enfin, le Sénat a supprimé la possibilité pour les patrons de bars, cafés et restaurants de vérifier l'identité du détenteur du pass afin d'éviter les fraudes.
Reste maintenant à trouver un terrain d'entente entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Les députés et sénateurs doivent se réunir en début d'après-midi pour tenter de s'accorder sur une version commune du texte en commission mixte paritaire. En attendant, la pression hospitalière reste très forte dans le pays. Près de 24 000 patients Covid sont actuellement hospitalisés. Les admissions qui ont augmenté de 18% en une semaine. Du côté des contaminations, plus de 360 000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures. Au chapitre judiciaire, garde à vue prolongée pour l'homme entendu dans l'affaire de la tuerie de Chevaline en Savoie. 9 ans après le drame, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile du suspect et vérifient son emploi du temps au moment des faits. Il s'agirait d'un témoin déjà entendu à l'époque dans cette affaire. On le rappelle, en septembre 2012, 3 personnes d'une même famille avaient été assassinées dans une voiture ainsi qu'un cycliste le long d'une route. 5 départements toujours en vigilance orange ce matin dans le sud-ouest, la Gironde, la Dordogne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne pour des risques de crues, conséquence des fortes pluies de ces derniers jours. Et plus de 500 000 téléchargements en moins d'une semaine. L'application Elise, mise en ligne vendredi dernier, est déjà numéro 1 en France. Son objectif, aider les indécis à y voir plus clair parmi les nombreuses propositions des candidats aux prochaines présidentielles. Un logiciel avec un fonctionnement amusant, Jeanne Billard, et qui s'adresse surtout aux jeunes.
Oui, il est semblable à l'application de rencontre Tinder. 500 mesures des différents programmes sont présentées anonymement aux utilisateurs. Ils doivent alors swiper à droite ou à gauche selon s'ils sont d'accord ou non. Chaque proposition apparaît de manière simplifiée, mais il est possible d'avoir accès à une explication plus détaillée avant de faire son choix. À partir de 50 réponses, l'algorithme établit un classement des candidats avec lesquels vous avez le plus d'affinité. Un classement réactualisé à mesure que vous continuez à répondre aux propositions.
Et avec 15 candidats, il faudra d'ailleurs un nombre de réponses important pour obtenir un résultat significatif. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellent début de journée à tous à l'écoute de Sud Radio.
Et je vous le confirme, nous commençons très bien. Merci Clémence Lobary à 6h37.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
Plusieurs petits repères pour vous, là si vous partez, attention, prenez vos dispositions, grève dans les écoles, une grève très suivie selon les prévisions. On en saura un petit peu plus tout à l'heure avec toutes nos équipes de Sud Radio. La question du jour, il y en a deux, vous allez sur le compte Twitter Sud Radio et sur la page Facebook. Première question, elle concerne les Yvelines. La justice a-t-elle eu raison de suspendre l'obligation du port du masque en extérieur? Oui ou non? C'est à vous de juger. Et puis, deuxième question, grève historique dans les écoles. Pour vous, Jean-Michel Blanquer, est-il 1. responsable, 2. bouc émissaire, 3. c'est la faute au virus, 4. c'est une grève politique. Voilà, vous faites votre avis. Et pour vous faire peut-être un avis, consultez la presse. Les 3 grands titres des 3 grands quotidiens nationaux. Parisien aujourd'hui en France, Covid-19, le grand stress des autotests avec une photo d'une petite qui s'apprête à voir l'écouvillon et c'est vrai que ça fait peur. Le Figaro, école, Blanquer piégé par les contraintes sanitaires. Le ministre qui est au cœur des débats puisque Libération aussi l'évoque. L'éducation en grève, c'est la faute à Blanquer. Voilà, c'est pas Voltaire mais c'est Blanquer. 6h38, vous savez pratiquement tout de ce qui nous attend dans l'actualité. Alors maintenant, on va s'intéresser aux choses très, très, très intéressantes parce qu'on a un curieux professionnel qui s'appelle Rémi André.
Sud Radio, curieux comme Rémi, Rémi André.
Et oui, tous les petits détails, les choses importantes de notre vie, les sports d'hiver par exemple, vous y apprêtez, hein, vous avez déjà fait les réservations. Il y a des blessures fréquentes, attention, parce que chaque année, on compte de 130 à 150 000 skieurs blessés sur les pistes de ski françaises. Certaines blessures sont malheureusement typiques de ce sport d'hiver. Rémi, cher Rémi, quelles sont ces blessures les plus fréquentes ?
Eh bien, mon cher Frédéric, pour répondre à cette question, il faut avoir lu le dernier rapport de l'association Médecins de Montagne qui chiffre 131 409 skieurs blessés sur les pistes en France, dont 87% en ski alpin et 12% en snowboard. L'association dénombre jusqu'à 7500 consultations et 3000 traumatismes par jour. La blessure la plus fréquente est l'entorse du genou qui représente 28% des accidents, suivie des lésions de l'épaule, 15%, du bassin et du thorax également, 12%, et des fracture du poignet pour 7%. Les membres touchés sont un peu différents selon les sports. Les entorses du genou représentent ainsi 34% des blessures en ski alpin, tandis que la fracture du poignet est la blessure la plus fréquente en snowboard.
On croirait la chanson, hein, j'ai la rate qui se dilate, etc. etc. Et bien, c'est impressionnant, comment peut-on faire un tel rapport ?
Eh bien, tout repose sur la profession des médecins de montagne. Un médecin de montagne est un médecin généraliste exerçant en station de sport d'hiver, une médecine de premier recours avec pour spécificité la traumatologie du ski. La médecine de montagne en station de sport d'hiver est caractérisée par la réponse de soins aux demandes de la population résidente, touristique, des saisonniers, ainsi que de la traumatologie liée au ski. Cette spécificité nécessite un plateau technique adapté, radiologie, échographie, médecine d'urgence avec du matériel d'oxygénation, scope, défibrillateur, oxymètre et matériel d'intubation et puis de la petite chirurgie. Alors, les médecins de montagne permettent ainsi d'éviter de nombreux transports et passages dans les services d'urgence des hôpitaux en vallée, souvent à une heure de route. Comme ces médecins sont organisés en association, chaque année, ils transmettent un rapport de leur activité, ce qui permet d'établir un rapport donc sur l'ensemble du pays.
Alors, docteur André, quelles sont les séquelles les plus dures ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir finalement, hein ?
Ben écoutez, les traumatismes du ski sont principalement la rupture des ligaments croisés ou la luxation d'épaule. Vous faites du sport, vous savez de quoi il s'agit.
Bien sûr.
Le ski est à l'origine de 12 000 à 14 000 ruptures des ligaments croisés, une blessure qui peut laisser des séquelles et des douleurs récurrentes. Le skieur ressent craquement immédiat avec une sensation de genou qui part dans le vide et un épanchement. Les chutes sur l'épaule occasionnent des luxations rarement graves. Elles entraînent quand même une forte douleur et une limitation de la mobilité pendant 2 à 6 semaines tout de même.
Et c'est la fameuse scène dans Les Bronzés. Allez, tu tapes et puis je lui remets l'épaule. Mais c'est raté. Bon, et le plus grave, c'est le traumatisme crânien, hein, j'imagine.
Oui. Ouais. Ben écoutez, le traumatisme crânien est heureusement rare. Hein, 2,8% des accidents et il se produit le plus souvent lors d'un choc direct ou indirect avec la piste verglacée et parfois avec des rochers en hors-piste. Le port du casque limite en principe le risque et il est donc fortement recommandé. Quand on parle de ça, évidemment, on pense tous à l'accident de Michael Schumacher qui n'a pas retrouvé toutes ses capacités physiques. Rassurez-vous tout de même, les accidents restent l'exception. Ils représentent 2,57 blessés pour 1000 journées skieurs.
Oui, oui, oui. Merci, cher Rémi André. Votre curiosité nous fait plaisir parce qu'on apprend plein de choses. Prudence à vous tous sur les skis. Bonne journée Rémi André. Il est 6h42. Dans un instant, Patrick Roger, Cécile de Ménibus arrivent. Parmi leurs invités du jour, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Ça sera à 8h15. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Trina McDean.
Vous êtes infidèle ou victime d'une infidélité et vous voulez savoir comment votre vie sentimentale s'annonce à l'avenir ? Alors appelez-nous au 0826 300 300. C'est Alexandre Delevan, notre coach intuitif, qui répondra à toutes vos questions et on décryptera ensemble la carte du jugement du tarot de Marseille. À tout à l'heure.
16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Trina McDean. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
6h45, faisons ensemble, s'il vous plaît, en ce 13 janvier, le rappel des titres de l'actualité. Jour de grève nationale dans les écoles, les syndicats d'enseignants en colère contre la gestion de l'épidémie. Ils dénoncent surtout les changements incessants de protocoles sanitaires dans les classes. Prenez vos dispositions au primaire. Le syndicat majoritaire annonce 75% de grévistes et une école sur deux fermée. Le Sénat donne son feu vert au projet de loi sur le pass vaccinal. Adoption en première lecture au prix de quelques modifications importantes. Néanmoins, sénateurs et députés doivent maintenant se mettre d'accord sur une version commune du texte. Ils se réuniront en début d'après-midi au Palais Bourbon. Un homme placé en garde à vue dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. Il s'agit d'un témoin mis hors de cause en 2015. 9 ans après le quadruple meurtre, l'affaire reste l'une des plus grandes énigmes judiciaires. 3 personnes d'une même famille et un cycliste avaient été retrouvés morts sur un parking de Haute-Savoie. Puis l'équipe de France de handball débute aujourd'hui le championnat d'Europe en Hongrie. Les champions olympiques jouent à 20h30 contre leur adversaire historique, la Croatie. Le temps, 6h45, de se faire notre petit point sur ce qu'il se passe dans les réseaux sociaux. C'est toujours on en parle, hashtag on en parle, avec hier un succès d'audience attendu. Hier soir, Éric Zemmour était l'invité de Face à BFM, succès aussi sur Twitter, bien alimenté par les équipes du candidat qui envoient de nombreux extraits. Voici celui le plus vu et commenté.
J'aurais à remplacer Emmanuel Macron et non pas un médecin. Donc Emmanuel Macron, je veux quand même juger son comportement. C'est un comportement cynique d'un politicien calculateur qui veut faire peur aux gens, et en particulier les gens âgés, qui sont, comme chacun sait, ceux qui votent le plus, et à qui il fait peur, à qui il pourrit la vie, uniquement pour pouvoir se parer des plumes de celui qui, soi-disant, les protège. Vous savez, il y a des gens, je connais des gens âgés, qui s'auto-confinent, qui ont tellement peur qu'ils ne voient plus leurs enfants, qu'ils ne voient plus leurs petits-enfants depuis des mois.
Sur Twitter, les commentaires sont souvent élogieux. Il n'a pas de fiche, impressionnant de maîtrise, il renvoie tellement plus d'humanité que les autres. Les attaques traditionnelles, évidemment, sur les journalistes intervieweurs pleuvent. D'ailleurs, le face-à-face avec Natacha Polony sur l'école est la deuxième vidéo la plus lue.
Aujourd'hui, nous avons une école publique qui est phagocytée par les lobbies LGBT, par Assa Traoré qui va dans les classes, par SOS Homophobie qui se balade dans les classes. Tout ça sera terminé.
Un programme en béton sur l'école se félicite certains sur Twitter. Alors pour ce jour de grève, le candidat Zemmour lance un thème fort. Les parents n'ont pas à diriger l'école et la classe, c'est le rôle du professeur. Vous avez 2 minutes, bonne chance Patrick Roger et Cécile de Ménibus.
Merci Frédéric Brindel, donc depuis ce matin 5h pour vous réveiller.
Ah oui.
Eh ben, le grand matin continue tout de même.
Le grand matin Sud Radio 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bon, vous avez bien révisé vos fiches, Cécile.
Écoutez,
interrogation écrite. Hein,
ah oui,
donc,
d'accord.
Bah
okay.
Oui, puisqu'on a,
j'espère
beaucoup
que je vais avoir la moyenne. J'espère que je vais avoir la moyenne. Hein,
on va beaucoup parler d'école aujourd'hui, évidemment avec cette grève qui s'annonce un peu historique dans certains établissements. Je pense notamment aux primaires. On dit qu'une école sur deux à peu près pourrait être fermée. Entre 60-75% du personnel par endroit aussi pourrait être en grève. Nous serons avec justement des enseignants qui sont en grève. Ils nous expliqueront pourquoi. Et puis on vous pose cette question sur les réseaux sociaux. Eh bien, et qui est responsable en quelque sorte aussi de cette grève, Cécile ? Et que dit-on donc sur les réseaux sociaux ?
Eh bien, pour vous, Jean-Michel Blanquer est responsable. Bouc émissaire, c'est la faute du virus. C'est une grève politique. Eh bien, vous dites qu'il est responsable à 62%, bouc émissaire à 20% et c'est une grève politique à 16%. Continuez de commenter bien entendu sur notre compte Twitter ou appelez-nous 0826 300 300, puisque on en reparlera aussi sur cette grève aux alentours de 7h09 avec les enseignants de Tarbes, hein, qui mènent un combat et qui ont fait une action symbolique.
Oui, des enseignants de Tarbes. Et puis sur cette question, évidemment, pourquoi est-ce qu'il est le bouc émissaire? Il faut savoir que c'est quand même assez tendu dans le gouvernement en ce moment et que ça a chauffé assez sérieusement hier matin au Conseil des ministres entre Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer qui a l'impression d'avoir été un peu seul pour annoncer l'ensemble en fait des protocoles. Donc ça chauffe un peu. Ce sera une question politique que nous poserons tout à l'heure à la ministre en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, qui sera avec nous, parce qu'il y a évidemment les écoles, tous les protocoles bien sûr pour les enfants, mais il y a aussi la question pour les EHPAD, et elle sera avec nous pour en parler tout à l'heure à 8h15.
Et puis merci Patrick pour cette galette que vous nous avez offerte ce matin.
Galette qui a été prédécoupée. Hein. Oui. Vous avez vu, je l'ai prédécoupée parce que pour éviter évidemment que ce ne soit trop Covid. Galette qui nous vient et qui nous a été fournie par Pierre Chauvet.
Oui.
C'est en Ardèche, du côté Ardèche, du côté d'Aubenas, Pierre Charvet, elle est absolument fabuleuse.
Elle est
à la châtaigne.
La châtaigne, ça change.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup pour ce joli cadeau. Tout de suite, Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Et on s'adresse aux entreprises, aux professions libérales, aux commerces, aux artisans. Et Éric Lamarance est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Président de Green to Kick, une start-up qui propose un concept de food truck 100% électrique et autonome. C'est un commerce de proximité, mais ambulant.
Exact. Tout d'abord, merci de me recevoir. Alors, Green to Kick, c'est un peu le commerce mobile des temps modernes, hein, puisqu'on a essayé d'éliminer tous les inconvénients qu'il y avait dans un food truck traditionnel, c'est-à-dire dans un camion.
Oui.
Et on a imaginé un tout petit véhicule, donc déjà physiquement qu'il soit plus petit, puisqu'il fait 1m40 de large par 3m50 de long seulement.
Alors, pour qu'on puisse se faire une idée, ça ressemble, c'est un tuk-tuk en fait.
Alors effectivement, c'est vrai que c'est difficile de se l'imaginer. Le mieux, c'est d'aller sur le site greentuki.com. Et là, tout le monde comprendra de quoi il s'agit. Mais si on doit l'imaginer, effectivement, ça ressemble plutôt à un triporteur.
Oui.
Sur une version tuk-tuk, mais encore une fois, différente du tuk-tuk que l'on connaît, qui n'est pas un tuk-tuk pour transporter des gens. Là, c'est une version utilitaire, en fait.
Alors, vous êtes allé, on peut le dire, hein, en Asie, et c'est ce qui vous a donné l'idée. L'intérêt aussi, c'est d'être éco-responsable, et c'est là où c'est vraiment innovant.
Alors, complètement. On a imaginé un concept véritablement éco-responsable, et ce depuis 6 ans. On a démarré l'aventure en 2016, exactement. Et il y a eu 2 ans et demi de recherche et développement parce qu'on a voulu quelque chose qui soit autonome en énergie, sans aucun branchement pour fonctionner. Donc le véhicule, lui, est déjà électrique pour rouler, donc silencieux et non polluant. Mais surtout, on l'a rendu autonome en énergie. Donc l'idée de ce concept, c'est d'apporter un service à la population et de collaborer avec les mairies et les collectivités pour aller sur des sites non exploités à ce jour. Notamment
des
sites naturels. Et voilà, en fait, l'idée, c'est pas de déranger les commerçants en centre-ville, il y a ce qu'il faut là-bas. Par contre, sur des lieux de promenade, des sites naturels protégés, justement, on se rend compte qu'il n'y a souvent pas de service.
C'est vrai, c'est vrai. Donc ça veut dire que c'est quoi ? C'est une toute petite camionnette qui est autonome combien de temps ? Ça dure combien de temps, finalement, l'autonomie ?
Alors 12 heures en fait, c'est presque un avion de chasse en fait.
Hein,
le tuk-tuk. Ouais. En fait, on peut alimenter 15 000 watts pendant 12 heures, ce qui est énorme. Pour vous dire, à l'intérieur d'un Green Tuki, il y a une machine à glace à l'italienne, une machine à crêpes, des boissons fraîches, des jus bio, et maintenant des frites bio, on fait des hot dogs américains. Il y a énormément de modules possibles et tout ça concentré dans un tout petit véhicule.
Donc c'est de la gourmandise à 100%.
C'est ça. En fait, l'idée, c'est on a voulu des produits simples, des produits plaisir à petit prix.
Oui, c'est ça. Et justement, aujourd'hui, vous les déployez comment ? Vous en avez comment ? Sur quels endroits ? Et vous vous déplacez sur quelle géographie ?
Alors, la genèse de ce concept, on est parti de Bordeaux et du bassin d'Arcachon. Ce concept est né dans le sud-ouest, sur Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Et le succès faisant, des gens nous ont demandé de développer ça dans des villes. Et donc, on a imaginé une franchise. Et donc, aujourd'hui, une franchise est née, Green Tuki. Et on cherche donc des collaborateurs pour exploiter eux-mêmes, dans leur ville, ce concept. Mm-hmm. Et on a eu la chance d'être sélectionnés et de présenter le concept au Salon des maires de France et des collectivités à Paris en novembre dernier.
Oui.
Ça a eu un super succès. Et donc, de nombreuses mairies souhaitent maintenant implanter Green Tuki dans leur ville et il sera tenu par un administré de leur ville, qu'on cherchera, qu'on trouvera.
Ça veut dire que vous pourrez peut-être aider à faire revivre des sites moins fréquentés parce qu'effectivement, pas de moyens de s'alimenter ou de boire. Ça va générer, comme on dit, redynamiser les centres-villes. Mais pour le coup, vous, c'est redynamiser certains sites ?
Véritablement. Et d'ailleurs, dans notre titre auprès des mairies, c'était vraiment animer et dynamiser vos territoires grâce à ce concept éco-responsable. Et vous avez tout résumé dans cette explication. En fait, c'est ça. C'est par les caractéristiques techniques de ce concept, en fait, on peut maintenant apporter un service à la population sur des endroits qui n'étaient pas développés à ce jour, et ce, par une démarche vertueuse, finalement.
Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est un très joli concept et c'est très original. Merci beaucoup, Eric.
Merci à vous. C'est vraiment sympa.
Et belle année, président de Green Tuki.
C'est très gentil.
Allez voir, bien sûr, sur le site si vous êtes intéressé. C'est formidable. Merci beaucoup pour cette belle
initiative.
Bonne journée
à vous.
À très bientôt. C'est le Grand Matin Sud Radio. Restez avec nous. Nous sommes ensemble avec Patrick Roger jusqu'à 10h.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.